Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Il est 12h30, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, l'inauguration du Salon de l'agriculture par Emmanuel Macron et l'enthousiasme d'un éleveur converti au bio. Une ville au chevet de son usine PSA menacée de fermeture, celle d'Héry-Moncourt dans le Doubs. L'exaspération des Algérois qui se dressent contre une cinquième candidature à la présidentielle d'Abdelaziz Bouteflika. Et puis la bulle écho consacrée ce samedi à la loi de programmation de la justice. L'agriculture française serait-elle menacée par les fractures européennes à l'œuvre, par des accords commerciaux avec des pays qui ne respecteraient aucun des standards environnementaux, sanitaires et sociaux? C'est en insistant sur ces enjeux que le président de la République a inauguré ce matin le 56e Salon de l'agriculture. Emmanuel Macron, défenseur de la politique agricole commune. Bonjour Laurent Sénéchal.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Laurent, vous avez assisté au discours du chef de l'État. Il s'est véritablement positionné comme tel.
Oui, effectivement, hein, puisque de toute façon, inclure les biens agricoles qui sont des biens à part, hein, a rappelé le chef de l'État, les inclure dans des traités internationaux, c'est une ligne rouge que l'Élysée a tracée et ne voudra pas franchir. Le chef de l'État a exposé sa vision de l'Europe et de ce que doit être, selon lui, la politique agricole commune, la PAC. Il y voit trois piliers. D'abord, elle doit être plus protectrice des consommateurs et des producteurs. Ensuite, il faut que l'Union européenne monte en qualité pour résister à la concurrence des grandes puissances que sont les États-Unis, la Russie par exemple, ou la Chine. Et puis le chef de l'État voudrait qu'une partie de la PAC soit fléchée directement, une partie de ce budget, une partie des aides aux agriculteurs, soit fléchée vers une reconversion dans des exploitations qui soient plus respectueuses de l'environnement. Cela passe notamment par des aides pour aider les agriculteurs à se passer de pesticides comme le glyphosate.
Eh bien, merci à vous, Laurent Sénéchal. Justement, cette agriculture raisonnée, deux ordonnances phares de la loi alimentation ont été publiées il y a peu, deux ordonnances censées augmenter les revenus des agriculteurs, malmenées par l'agro-industrie, les géants de l'agroalimentaire et, venons-en au fait, à l'agrochimie. Cependant que l'agriculture biologique chemine et prend de l'ampleur, ce que ne démentira pas Gilles Druet, l'éleveur dont la vache a été choisie comme égérie du salon.
Moi, je m'étais installé sur une petite structure. Il y avait 35 hectares, 35 vaches, tout en herbe. Donc le système, entre guillemets, idéal pour le bio, quoi. En 96, on ne parlait pas forcément beaucoup de bio. Petit à petit, on a commencé à parler de plus en plus du bio. Et en 2008, on s'est quand même posé la question de dire, ah non, on va faire une étude pour voir si on ne peut pas passer en bio. On avait les enfants qui commençaient à avoir un petit peu l'idée de s'installer. Et on s'est dit... On a eu une opportunité pour pouvoir reprendre une exploitation à côté. Donc là, de 35 hectares, on est passé à 120 hectares. De 35 vaches, on est passé à 100 vaches. Tous les repères ont un peu volé en éclats. Il m'a fallu 5 ans pour à peu près restabiliser tout. Et puis après, là, on a fait le pas de se reconvertir. Ah oui, c'était un bon choix. De toute façon, on avait ça dans l'âme, quoi, dès le départ, quoi. Donc forcément, voilà, ça s'est fait tout seul, sans douleur, sans contrainte particulière. Quoi.
Des propos recueillis par Anne-Laure Chouin. Un dépôt du géant de la vente en ligne Amazon à Toulouse, un supermarché dans la Sarthe. Deux lieux parmi bien d'autres investis par des gilets jaunes. 15e mobilisation consécutive ce samedi. Les autorités recommandent aux habitants des communes proches de Clermont-Ferrand de ne pas se rendre au centre-ville ce matin. Des interpellations en amont du défilé, avec des saisies de boules de pétanque et de pieds de biche. Dans les témoignages à venir, vous identifierez des revendications portées par cette contestation citoyenne des Gilets jaunes. Ils proviennent d'un bassin d'emploi qui ne cesse de souffrir de la désindustrialisation et ou de choix managériaux qui ne tiennent pas cas des réalités endurées par la main-d'œuvre. En cette mi-journée, les habitants de la ville d'Héry-Moncourt dans le Doubs sont appelés par la maire à se battre contre la fermeture annoncée de son usine PSA. Le site, l'un des berceaux de Peugeot, emploie un peu plus de 200 personnes et fabrique notamment les moteurs de la C4, la 208 et la 308 GTI. Son activité pourrait être transférée à Vesoul l'année prochaine. C'est un reportage à Héry-Moncourt de Sébastien Baird.
À l'entrée du site, la banderole est accrochée sur les grilles vertes. Non au transfert d'activité, non à la fermeture de l'usine, proclame-t-elle. 13h, c'est le va-et-vient des véhicules, l'heure du changement de service. L'équipe du matin laisse la place à celle de l'après-midi. Un peu plus de 200 salariés, une trentaine d'intérimaires, tous menacés par la possible fermeture.
Ça fait un coup quand même, hein, au moral. Hein.
Pourquoi nous enlever, arrêter le site alors qu'il y a du travail, quoi. Le travail arrive et On ferme, on comprend plus.
Principale victime parmi les commerçants, le tabac presse épicerie Terrasson situé face à l'entrée du site. Les salariés de PSA représentent 25% de sa clientèle.
Comme ça va être un village dortoir, les gens vont partir et tout.
Laurence Terrasson, la gérante depuis 16 ans.
Donc oui, c'est une catastrophe économique pour la région. C'est tous des gens qui avaient construit ici ou acheté ici qui vont certainement déménager. Quand il n'y aura plus rien, quand il n'y aura plus d'école, quand il n'y aura plus de médecins, c'est encore plus de gens qui vont partir d'ici. Si ça continue, on mettra la clé sur la porte.
Et puis, il y a cette usine fondée en 1833, la première du groupe Peugeot. Le principal employeur de la ville, explique le gérant du café, Serge Dubray.
C'est le centre névralgique de la ville. Le plus gros employeur, celui qui a fait monter Hérimoncourt, qui a construit Hérimoncourt. C'est Peugeot qui a construit cette ville, presque. Tout le monde est passé par la casse Peugeot à un moment donné de sa vie.
Pour l'heure, les syndicats de l'usine qui ont uni leurs forces pour mener la bataille ont refusé de signer l'accord d'accompagnement qui validerait la fermeture. Pas question que les salariés soient reclassés à Vesoul, disent les délégués du personnel.
Ben moi, personnellement, je ne suivrai pas.
On ne se voit pas faire 80 km Hérimoncourt-Vesoul. 1 heure et quart aller, 1 heure et quart retour. Faut compter l'essence, 300 euros d'essence. Donc non, c'est impensable.
Bonjour, Marie-France Botarlini-Caputo, maire d'Hérimoncourt depuis 2014.
En cas de départ de PSA, la commune devrait composer avec un manque à gagner annuel de 100 000 euros, le montant de la taxe foncière.
100 000 euros, ça peut être par exemple la réfection complète d'une rue. On avait un projet de vidéosurveillance, il a été estimé à 100 000 euros. Voilà, on a d'autres projets, un city-stade pour les enfants, c'est quasiment 100 000 euros. Enfin, voilà, c'est une somme, si elle venait à disparaître, ça serait très dur pour la commune.
La précédente mobilisation, le 11 février, avait rassemblé 300 personnes. Cette fois, la maire espère réunir au moins 1 000 000 de manifestants. Les salariés d'autres sites Peugeot pourraient venir soutenir leurs collègues d'Hérimoncourt.
Les observateurs avisés de l'histoire et de la vie politique du Soudan s'accordent à dire qu'Omar el-Béchir n'a jamais croisé pareille crise. Hier soir, le président a annoncé le limogeage du gouvernement et décrété l'état d'urgence pour 1 an. Depuis le 19 décembre dernier, des dizaines de morts, 51 selon Human Rights Watch, dans la répression de manifestations provoquées par le triplement du prix du pain. Les précisions de Valérie Crova.
Proclamation de l'état d'urgence, dissolution du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux. Omar el-Béchir tente de reprendre la main dans un pays secoué par une crise sans précédent depuis 2 mois, avec des manifestations quasi quotidiennes. Elles ont été déclenchées après la décision de tripler le prix du pain, une hausse de trop pour les Soudanais qui subissent de plein fouet les difficultés économiques. Le Soudan est exsangue depuis l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, qui a amputé ses revenus pétroliers de 80%. L'inflation atteint 70%, ce qui a contraint le gouvernement à dévaluer la monnaie à 3 reprises l'an dernier. Aux revendications économiques se sont ajoutées des revendications politiques. Fer de lance de la contestation, l'association des professionnels soudanais, composée de médecins, d'enseignants et d'ingénieurs, réclame la démission du président Omar el-Béchir. Mais ce dernier, au pouvoir depuis 1989, compte se représenter en 2020 pour un 3e mandat, alors que la Constitution n'en autorise que 2. Omar el-Béchir dispose d'un moyen très efficace pour réprimer les protestataires, le service du renseignement et de la sécurité, qui a déjà arrêté des centaines de manifestants depuis le mois de décembre.
Les élections présidentielles au Nigeria, premier producteur de pétrole du continent africain, bureau de vote ouvert depuis quelques heures. 2 hiérarques septuagénaires originaires du nord du pays s'affrontent. Mohamed Bouhari, qui en 2015 avait promis d'éradiquer la secte islamiste Boko Haram, et Atiku Abou Bakar, principal leader de l'opposition. Un autre pays producteur d'hydrocarbures dont la population est confrontée à la corruption d'un pouvoir et la non-redistribution de la rente, l'Algérie. Un pouvoir incarné par un homme considérablement affaibli par la maladie, Abdelaziz Bouteflika, en lice pour un 5e mandat. Retour sur l'exaspération de milliers d'Algérois qui hier se sont mobilisés de manière improvisée dans le centre de la capitale. À Alger, Laïla Berato.
Des milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre de la capitale. Plusieurs cortèges divisés ont parcouru les grandes artères passant devant les commissariats ou le palais du gouvernement sans heurts. Alors que les manifestations sont interdites dans la capitale, Asma voulait participer pour faire entendre sa voix.
C'est trop, on est fatigué. Il a vieilli, il a travaillé pour le pays, c'est vrai, mais c'est trop.
On est fatigué. Moi, je veux partir. Je veux prendre la mer et partir.
C'est tout. Laissez-le, le pauvre.
Il se moque de lui. Il l'utilise.
L'ampleur de la manifestation a surpris tous les observateurs. Son déroulement dans le calme aussi. Mohamed Khalil, membre de la Ligue de défense des droits de l'homme, espère que cela aura un impact.
Tant que l'expression du peuple est sans équivoque, j'espère qu'elle sera entendue par les politiques. Franchement, personne ne pouvait prévoir une telle mobilisation. On savait que les Algériens ont reçu la candidature du président comme une violence. Et je pense que là, ils expriment cette indignation et cette colère.
En fin de journée, quelques échauffourées ont eu lieu sur les hauteurs de la ville entre des jeunes qui voulaient s'approcher de la présidence et les forces de l'ordre.
Et un mouvement citoyen appelle à manifester demain dans les principales villes contre ce cinquième mandat brigué par Abdelaziz Bouteflika. Abdelaziz Bouteflika attendu demain à Genève pour, je cite, des examens médicaux périodiques. Fin de citation.
La bulle économique, Marie Viennot.
Et retour sur la loi de programmation de la justice votée cette semaine avec la bulle éco intitulée ce samedi « La fable des moyens accrus de la justice ».
Justice sociale, fiscale, climatique, des jeunes qui manifestent pour le climat au grand débat en passant par les gilets jaunes, la demande de justice est sur toutes les lèvres. Mais la justice a-t-elle les moyens des ambitions qu'on place en elle? Grâce aux documents publiés pour le grand débat, on sait que sur 1000 euros de dépenses publiques, 4 euros seulement sont consacrés à la justice. Justice débordée, indigente, au bord du burn-out, l'état de délabrement de la justice ne fait plus débat. La preuve, ses crédits augmentent chaque année. La loi qui vient d'être votée promet à nouveau une augmentation de 24% sur 5 ans. Mais est-ce assez pour rattraper le retard pris dans les tribunaux? Les syndicats de magistrats, greffiers et fonctionnaires disent que non. Des avocats confirment via des chansons satiriques cocasses leur dire. Et à l'appui de tout ça, il y a la Cour des comptes qui a publié en décembre un rapport qui dresse un tableau effrayant de la gestion des effectifs par la direction des services judiciaires. Effrayant, c'est le mot, même si les magistrats de la Cour n'en pas ce vocable. Ils ont étudié la période 2013-2017 et constaté que le budget avait beau avoir augmenté de 9%, cela n'avait eu aucun effet sur le nombre d'emplois, ni les délais de jugement et le stock des affaires en cours. Au contraire, alors qu'il y a moins de nouveaux contentieux, les délais de jugement s'allongent. En première instance, le stock de dossiers est évalué à 10 mois d'activité, en appel 14 mois, 12 mois pour les délits, 40 pour les crimes. Le nombre de juridictions en grande difficulté augmente. 60% des tribunaux d'instance sont concernés, alors que le gouvernement donne, lui, le chiffre de 20% dans ses documents budgétaires. Cette sous-estimation officielle est une tendance lourde. Elle fait l'objet de groupes de travail depuis 20 ans, sans qu'aucune solution ne se dessine. Voilà pourquoi les 24% de plus accordés à la justice, dont l'essentiel iront d'ailleurs aux prisons et l'immobilier, je détaille cela sur Internet, ne changeront pas la donne dans les tribunaux. Premier écueil des calculs du ministère, les 23 000 fonctionnaires de justice judiciaire, hors magistrats, sont tous et toutes censés travailler à temps complet, ne prendre jamais de congé maternité ni maladie. Du coup, les emplois sont sous-estimés de 3 300 postes chaque année. Les 8 300 magistrats sont eux et elles censés juger 100% du temps et ne remplir aucune tâche administrative. Leur stock d'affaires en cours n'est pas pris en compte pour le calcul des besoins en effectif, comme si chaque année en décembre, on revenait à zéro. Oui, c'est incroyable, mais vrai. Conséquence du surmenage vécu sur le terrain, les départs en retraite se font plutôt qu'anticipés. Le taux d'absence moyen des fonctionnaires judiciaires est supérieur à 8%, deux fois plus qu'à l'hôpital, un record. Deuxième écueil, ce cercle vicieux est renforcé par toutes les lois, terrorisme, immigration, qui depuis une dizaine d'années alourdissent la charge des juridictions. Or, les études pour mesurer leur impact en nombre de postes sont au mieux imprécises, la plupart du temps inexistantes. On ne peut nier la difficulté de mesurer ces évolutions. Force est de constater que l'administration des juridictions judiciaires ne tente même pas l'exercice, écrit la Cour des comptes. Lors de la discussion de sa loi en novembre, Nicole Belloubet a répondu à un député communiste.
Je n'ai qu'un regret, c'est de n'être pas la reine des neiges, sinon je vous aurais chanté l'hymne libérés, délivrés.
La ministre promet 400 magistrats supplémentaires d'ici 2020-2021. Or, il y a déjà 400 postes vacants, budgétés, mais non occupés. Elle compte aussi sur la numérisation et la déjudiciarisation de certaines procédures pour redéployer dès l'an prochain 253 emplois. Un chiffre dont vous savez maintenant la rigueur avec laquelle il est calculé. Plus qu'une robe bleue et neige, la ministre de la Justice devrait regretter de ne pas posséder une meilleure calculette.
Merci à vous Marie Viennot. La météo de l'après-midi, soleil généreux sur tout le pays. En fin d'après-midi sur PACA et le Languedoc-Roussillon, des nuages bas s'installeront peu à peu. Cette édition a été préparée avec Emmanuel Faucillon, à la technique Florent Bujon.